Tout pour investir. Investir autrement.
Et si vous achetiez un sac à main de luxe dans une optique d'investissement essentiellement sur le marché de la seconde main, on va vous expliquer pourquoi est-ce que c'est une piste intéressante avec Léa Lejeune, journaliste et cofondatrice de Plan Cash. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Est-ce que c'est un gros marché ?
Oui, c'est un gros marché et qui augmente de plus en plus ces dernières années. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est surtout un marché de seconde main, un marché de revente. Et c'est là qu'en fait, on peut vraiment parler d'investissement, de plus-value et de s'enrichir.
Ça paraît un peu bizarre, acheter un sac à main dans un but de placement ou spéculatif. Mais vous me disiez juste avant de commencer cette interview, c'est un peu pareil pour les montres.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un actif qu'on peut comparer à une montre. C'est-à-dire qu'on achète un actif de collection, de valeur, que l'on va conserver dans un bon état et que l'on va ensuite revendre à un prix qui varie en fonction du cours et du marché. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui.
Le conserver dans un bon état. On verra que c'est important dans un instant. Qu'est-ce qu'on achète ?
Alors,
on achète de la rareté et du luxe.
On l'achète de la rareté et du luxe. La première chose qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que pourquoi ça continue autant à progresser. Je vais juste prendre un exemple de sac à main, le sac à main un peu iconique qu'on appelle le Chanel 2.55 ou 2.55. Vous savez, c'est le petit cuir noir matelassé, là, vous l'avez peut-être déjà vu.
Je connais, j'ai pas de sac à main personnellement.
Voilà,
désolé,
mais sur les réseaux sociaux ou dans des soirées un peu luxe. Voilà,
mais
ce
oui,
petit sac à main là, Chanel, qui est un peu la vedette, en fait, a passé la barre des 10 000 euros de vente en magasin, 10 300 euros récemment.
Ça, c'est le prix de vente.
Ça, c'est
9,
le vent...
Si je vais chez Chanel.
Exactement.
Question importante, si je vais demain dans une boutique Chanel, est-ce qu'il est disponible ?
Oui, celui-ci est disponible, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont plus rares, c'est les Birkin, dont on entend souvent
c'était
parler.
C'était ma question suivante.
Sur liste d'attente.
Le
voilà.
Sac vedette de chez Hermès, le Birkin, lui n'est pas disponible, ou en tout cas, il faut montrer pas de blanc. Si on en veut un.
Non, tout à fait. Mais alors, ce qui est intéressant sur ces sacs à main, c'est que si on regarde dans les années 90, le petit Chanel, il était vendu 1150 euros. 1150 euros à 10 000 euros. On a fait une progression monstrueuse. Avant le Covid, il était à 6 000 euros. Ça veut dire que ça continue à progresser. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, alors qu'on a vécu la crise économique liée à la pandémie, le ralentissement du marché, etc., en fait, les marques du luxe ont continué à pouvoir augmenter leurs prix et augmenter leurs marges. Et tout ça, c'est à cause, grâce à un facteur que les économistes appellent le pricing power. Alors, le pricing power, qu'est-ce que c'est donc ces sociétés qui peuvent augmenter leurs prix même en période de crise, qui peuvent répercuter les coûts de production, de l'énergie, les coûts des matières premières.
Des marques qui sont tellement puissantes qu'elles ont tout simplement la capacité de fixer leurs prix et ça n'aura pas forcément d'impact sur la demande.
Voilà, c'est ça. Et
ces
marques-là, il y a en fait surtout deux secteurs, hein. La tech, on l'a beaucoup vu, et le luxe. C'est vraiment toujours à peu près les mêmes marques. Et la demande ne diminue pas, c'est ça qui est assez fou. Malgré l'augmentation des tarifs, ça diminue pas. Alors ça repose sur quoi ? Ben, un savoir-faire très fort, presque discriminant, on pourrait dire, un réseau de performance, un réseau de distribution performant, une avancée technologique, donc plutôt pour la tech, un désir ou une clientèle aspirationnelle, hein, c'est ça qu'on dit pour le luxe, et puis bien sûr une forte valeur ajoutée, une marque inscrite dans le temps long. Bref, tout ça, c'est les facteurs qui comptent énormément. Et ce qui fait que ces produits, finalement, prennent de la valeur en magasin, etc., fait aussi que ça va gagner de la valeur sur le second marché. Alors, ce que j'aime bien quand même, c'est que souvent, on dit, et peut-être que vous n'êtes pas un lecteur de presse féminine, mais on dit souvent dans la presse féminine qu'on investit dans un sac à main. Or, un sac à main, c'est un peu comme une voiture de luxe, quoi. Dès que ça sort de chez le concessionnaire, dès que ça sort du magasin, ça perd de la valeur. Donc, si on veut économiser, investir, avoir une vraie stratégie pour faire du bénéfice et de la plus-value sur la seconde main, en fait, il faut mettre en place un plan.
Alors, je vous écoute.
Alors, le plan, notez bien. La première chose, c'est de privilégier les achats sur des endroits où on n'a pas du tout de marge qui ont été mises en place. Donc, par exemple, les maisons d'enchères en ligne, les maisons d'enchères traditionnelles, mais aussi les brocantes de province, les magasins d'antiquités un peu anciens, les vide-greniers dans des trous un peu paumés où on n'a peut-être pas toujours en tête l'idée que ces sacs-là, ces éléments-là ont pris de la valeur. Ensuite, ce qui peut avoir du sens, c'est de miser sur des sacs très beaux, mais parfois un petit peu abîmés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va l'acheter moins cher, notamment aux enchères, et ensuite, on va le faire réparer. Vous voyez, c'est un peu comme quand on achète un appartement à rénover en entier. Ouais. Et bien là, s'il y a des petites rénovations, refaire une boucle, refaire un petit peu le dessus...
À condition de ne pas faire n'importe quoi.
Et à condition de ne pas faire n'importe quoi. Il faut faire très attention avec qui on travaille et privilégier plutôt les anciens confectionneurs, les anciens couturiers des grandes maisons de luxe qui, en général, l'écrivent sur leur devanture.
Là, vous me parlez de création de valeur avec le sac Chanel 2.55 parce que le prix en magasin a augmenté. Donc, pour ceux qui l'ont acheté il y a quelques années, évidemment, le neuf est beaucoup plus cher aujourd'hui. Donc, mécaniquement, une occasion en bon état va prendre de la valeur.
Oui, mais
est-ce que c'est vrai aussi sur l'effet rareté, c'est-à-dire le Birkin, par exemple, on sait qu'il n'est pas disponible en magasin ou en tout cas très difficilement. Et donc, pour des personnes qui veulent en acheter un tout de suite... ces personnes-là vont devoir se reporter sur le marché de l'occasion. Et
tout
donc là, il y a un effet rareté qui peut...
Il y a un effet rareté, mais ça ne marche pas pour tout. Bon, déjà, il faut savoir que les marques dont on est sûr de pouvoir les revendre et de pouvoir faire une plus-value, c'est toujours les mêmes. C'est Chanel, Hermès, Dior et Louis Vuitton.
Voilà.
Toujours.
Et faut ensuite... pas sortir de ces quatre, a priori.
A priori, il faut pas sortir de ces quatre, sauf sur des séries très limitées. C'est-à-dire, je sais pas s'il y a une série limitée de Jacquemus ou quelque chose comme ça, on peut peut-être filer dessus, le garder, le maintenir en bon état. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Bon, le Hermès, le Birkin Hermès, on sait qu'aujourd'hui, il peut être vendu aux enchères, que ça démarre à 10 000 et ça peut passer les 100 000.
Combien ça vaut en magasin?
Alors ça, je sais plus exactement, parce que les prix fluctuent tout le temps. Ouais. D'un mois à l'autre, en fait, ça change énormément.
Mais en tout cas, ça fait partie des sacs à main qu'on peut trouver plus cher en occasion qu'en magasin.
Oui, mais c'est surtout qu'en fait, le Hermès, on ne peut quasiment, le Birkin de Hermès, on peut quasiment pas le trouver. Donc en fait, là, pour le coup, on est sur un effet luxe plus rareté, et c'est pour ça qu'il a un prix aussi important, et que les gens, voilà, se mettent sur liste d'attente pour pouvoir l'obtenir.
Alors excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous aviez une liste de conseils. Le maintenir en bon état, c'est très important. Plutôt miser sur un produit un petit peu abîmé, le faire réparer.
Alors en fait, c'est ça. Si on achète en seconde main, plutôt miser sur un produit un petit peu abîmé et à faire refaire sur lequel on va pouvoir faire une plus-value. Ouais. Plutôt chercher les enchères et les brocantes, plutôt miser donc sur les quatre marques que je vous ai dit, parmi les vous avez cité l'iconique Birkin, mais on aurait pu aussi citer le Lady de Dior, on aurait pu aussi citer le Speedy ou les vieilles malles de Louis Vuitton qui se revendent très cher aujourd'hui. Il faut choisir des modèles intemporels. Alors pour le coup, si mon coup de cœur à moi c'est du rose flashy ou du rouge flashy, ça va peut-être pas se revendre aussi bien au second marché, sauf pour un collectionneur, une collectionneuse. Et puis après, on peut ensuite revendre sur les sites traditionnels, donc c'est-à-dire les Vinted et les Vidressing. Mais attention, il faut garder les étiquettes, les certificats d'authenticité. Si on a le package d'origine, c'est encore mieux. Tout ce qui permet de vérifier la traçabilité, parce qu'il y a énormément de faux qui sont vendus sur ces plateformes.
Alors justement, ça c'était une question. Comment est-ce qu'on décèle la contrefaçon ? J'imagine que dans ce type d'investissement, c'est le principal danger.
Oui, c'est ça. Alors, il faut faire très attention, par exemple, à la manière dont le logo et la marque sont inscrites, à la façon dont les points sont tissés sur les intérieurs des sacs à main, etc. Donc là, on peut retrouver des sites qui font ces présentations-là. Bon, nous, on le fait chez Plan Cash, hein, puisqu'on a une petite formation avec une investisseuse spécialiste en sacs à main sur plancash.fr qui permet de repérer tous ces petits bugs-là. Ouais. Mais effectivement, pour ne pas se faire avoir, il faut chercher les certificats d'authenticité, il faut regarder les logos, il faut travailler sur les points et il faut vérifier l'historique du modèle sur Internet, dans la banque d'images de la marque.
Est-ce qu'au global, on peut quand même considérer que c'est un investissement spéculatif ? Est-ce qu'on peut se tromper ?
Oui,
miser sur un sac à main et finalement perdre de l'argent.
Oui, on peut se tromper, mais si on tombe sur une contrefaçon, pas forcément sur l'histoire du spéculatif, à moins qu'on sorte vraiment des sentiers battus, comme je vous l'ai dit. Mais a priori, on peut faire des plus-values qui sont intéressantes. Et pourquoi ça plaît beaucoup en ce moment, notamment aux jeunes femmes entre 25 et 40 ans qui se sentent un peu... c'est un peu comme les collectionneurs de montres. C'est-à-dire, c'est un produit qui les fait rêver, qui leur donne envie de passer du temps à aller chercher toutes les chiffres et toutes les informations pour devenir vraiment expertes dans leur domaine. Et donc voilà, c'est un truc où on peut, en plus, sur un sac à main, par exemple, qu'on va acheter 1 500 €, on peut le revendre 6 000 €, on peut faire des plus-values de plusieurs milliers d'euros en y passant un temps minimum.
Est-ce que c'est pas un peu frustrant de s'acheter le sac à main ? Enfin, vous faisiez la comparaison avec une montre, c'est pareil aussi. Le sac à main ou la montre de vos rêves, et finalement de ne pas s'en servir, de ne pas l'utiliser, de ne pas le porter pour pour éviter justement de l'abîmer.
Ah oui, moi je pense que c'est totalement frustrant d'un point de vue individuel. Mais là, je vous parle juste d'un point de vue investisseur. Et d'un point de vue investisseur, il faut faire ce choix. Voilà, soit on achète et vraiment dans l'objectif de revendre, soit on met de côté, on en prend soin énormément. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, les marques de luxe sont en train de réfléchir à de nouveaux moyens pour permettre de conserver la valeur au fur et à mesure des années. On verra.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Léa Lejeune, journaliste et cofondatrice de Plancash.fr.
Merci
beaucoup.